Nada, no, nine, dame da. Je ne veux pas, c'est comme ça. Je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Et bonjour, on est dans l'émission Dégenrée. On a Caro à la technique qui est en passation de devenir maîtresse de la technique avec Caro, avec Cynthia en soutien. Et on a aussi, on accueille deux camarades de l'association Ancrage. Alors merci d'être là et de nous avoir contactés. C'est pas si courant qu'on nous contacte et dans ce sens-là, du coup on est ravis que vous l'ayez fait et de vous avoir avec nous pour ce créneau de Dégenrée. Et pour faire cette émission ensemble autour d'Ancrage, donc, qui est une association de prévention des violences sexistes et sexuelles. Mais je vais vous laisser vous présenter et peut-être commencer par un petit rappel historique de l'association, si j'ai bien compris le démarrage. Bonjour.
Salut.
Qui êtes-vous?
Eh bien, moi c'est Jordan. Je suis du coup à l'orga des activités d'autodéfense et j'anime aussi les activités d'autodéfense féministe pour le public adulte. Voilà.
Ok.
Et moi, nous, du coup, je suis tout ce qui est administratif et recherche de financement.
Vous êtes deux salariés.
Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, on avait trop envie de venir aujourd'hui pour passer à l'émission Dégenrée, parce que bah, vous êtes des camarades de longtemps et c'était un endroit assez confortable pour venir parler de nos projets. Donc on est super contente d'être là et en même temps un peu impressionnée. Donc voilà, on va un peu avoir des petites voix qui chevrotent. Mais on est hyper ravis, quoi.
Nous aussi, c'est un plaisir partagé. Alors, comment ça a démarré Ancrage? Ça date de quand? C'était pour qui? Pourquoi? Comment?
Eh bien, l'asso a été créée en 2010. Elle émerge des milieux autonomes grenoblois qui ont participé à développer l'autodéfense féministe sur le territoire. Au début, ça s'appelait l'ASPA et ça comprenait à la fois l'autodéfense, mais aussi un pan de santé communautaire. Et à un moment, ça... c'est divisé en deux assos, du coup, c'est devenu Ancrage, qui s'est concentré du coup sur les questions de prévention des violences. Et ensuite, il y a eu Rita qui a fait du soin de la santé communautaire pour les personnes trans. C'est une asso qui a des salariés depuis 2019. Et ce qu'on fait, nous, c'est de la prévention primaire des violences, du coup, tu l'as dit. Il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, ça va vraiment être tout ce qu'on peut faire en amont des violences pour les prévenir. Donc tout le côté sensibilisation, éducation notamment. Secondaire, ça va être qui arrive juste après les violences, donc numéro d'urgence, mise en sécurité. Et tertiaire, ça comprend notamment les parcours judiciaires et les parcours de soins. Et nous, du coup, on se concentre beaucoup sur la prévention primaire. Mais de fait, vu les publics avec lesquels on travaille, en fait, on fait aussi de la prévention tertiaire, puisque la majorité des personnes avec qui on travaille ont déjà vécu des violences, si ce n'est toutes les personnes. Et du coup, de fait, on s'inscrit aussi dans un parcours de soins de ces personnes. L'association, elle a deux pôles principaux, et je laisserai Jordan, du coup, développer sur le pôle autodéfense. Mais du coup, un des deux pôles, c'est le pôle autodéfense féministe, à destination des femmes cis et trans, personnes intersexes et non-binaires, et des adolescentes. Et le pôle CAP, clé pour l'autonomie et la prévention, qui vise à lutter contre les violences faites aux enfants. Et globalement, on s'inscrit vraiment dans une démarche de santé publique. En fait, les violences sexistes et sexuelles, elles ont un impact réel sur la santé des personnes, que ce soit physique ou psychique. On sait que le psychotrauma, ben, ça a un impact sur le long terme. Enfin, voilà, du coup, nous, on lutte contre des violences qui sont systémiques, Du coup, l'enjeu, il est quand même très large pour toutes les assos d'autodéfense féministe. Voilà. Enfin, on pourra développer un peu plus tard là-dessus, mais globalement, pour la présentation.
Très bien. Et juste pour préciser, même si on y reviendra effectivement tout au long de l'émission, mais quand vous parlez de violence, du coup, c'est violence physique, verbale, psychologique, émotionnelle. Enfin, c'est tout type de violence, quoi.
Ouais. Ouais.
Oui, on va beaucoup s'attacher à avoir une lecture systémique des violences. Et du coup, on est aussi dans... On agit avec le spectre de l'analyse féministe des violences, qui se pense les choses aussi de manière intersectionnelle au vu des discriminations qui peuvent se superposer selon les groupes sociaux et du coup qui peuvent avoir des impacts multiples lorsqu'il y a des croisements de discriminations qui s'opèrent. Et du coup, ben, on peut s'adresser à des publics qui vivent des typologies et des types de discrimination, enfin des typologies de violence variées et aussi qui sont spécifiques à l'intersection de leur discrimination. Donc chaque groupe qu'on va réunir pour outiller sur de l'autodéfense et de l'autoprotection va s'outiller depuis son endroit spécifique. Et du coup, ben, ça va poser des questions relatives à des vécus spécifiques. On s'adapte, quoi. On essaye de proposer des outils qui s'adaptent à des publics variés, quoi. Et qu'on essaye au maximum de réunir entre pairs. Et on pourra vous en parler un peu plus pour ce qui est du pôle d'autodéfense féministe. On peut en parler. Enfin, il y a aussi CAP. Bah, du coup, c'est vraiment axé sur le pôle CAP. C'est vraiment un pôle qui est axé sur les violences faites aux enfants. Et là, c'est vraiment proposer un dispositif qui peut aller dans les écoles, donc les écoles élémentaires, maternelles et primaires. Et du coup, c'est des équipes d'anime qui se déploient à travers l'ensemble de l'école sur un mois et qui proposent du coup de faire de la lutte contre les violences faites aux enfants. Donc ça, c'est les deux gros pôles de l'association. Mmh. Le pôle autodéfense féministe pour des publics à partir de 8 ans en non-mixité et de l'autre côté, le pôle CAP pour faire de la lutte contre les violences faites aux enfants.
Et alors là, parce que tu viens de dire à partir de 8 ans.
Oui.
Sans que ça soit dans le pôle CAP.
Oui, en fait, des fois, on peut faire des interventions qui peuvent hybrider un peu les deux méthodes. Okay. Mais il y a des moments aussi où l'intention de nos interventions, ça va être de s'adresser spécifiquement à des filles, alors que le programme CAP, lui, il est vraiment à destination des enfants en mixité, quoi.
Oui, d'accord. Et quand vous parlez de non-mixité, c'est... vous avez telle et telle non-mixité selon les formations ou les stages ou de... Enfin, de quelle non-mixité on parle ?
Oui, alors la non-mixité qu'on pratique le plus souvent, ou mixité choisie, enfin voilà, ça veut à peu près dire... En tout cas, nous, on la nomme majoritairement mixité choisie. Ça va être la mixité choisie entre femmes cis, trans, intersexes et personnes non-binaires. En tout cas, pour ce qui concerne les stages sur inscription qu'on propose, qui ont lieu tous les mois. Pourquoi cette mixité choisie ? Ça va être parce que c'est celle sur laquelle les formatrices ont le plus réfléchi au niveau local et du coup ont le plus de capacité à entrevoir et à accompagner ces groupes sociaux-là pour s'outiller face aux violences patriarcales, entre autres. Et du coup, il arrive de manière ponctuelle qu'on organise des mixités choisies différentes. Mais pour ça, ben, ça demande des prépas spécifiques ou alors de faire déplacer des animes de plus loin. Mmh. Parce que ben, pour ce qui est de la réalité de l'équipe d'animes sur Grenoble à Ancrage, il y a effectivement du coup... ben, moi, je suis au poste de salarié et j'anime pour adultes. Mais autour de moi et de nous, il y a aussi quatre autres animes qui sont externes. Il va y avoir du coup Sophia, qui est une personne qui a aussi fait partie des fondatrices et des maillons importants de l'association, qui reste active et qui, elle, est formée et à la méthode d'autodéfense féministe et qui peut intervenir auprès des ados et qui maîtrise le programme CAP et ses animations. Il y a aussi Kalou, qui, elle aussi, est formée sur l'ensemble de ces outils-là. Il y a aussi Sarah, qui, elle, intervient aussi auprès des adultes avec l'autodéfense féministe. Et Marion, aussi pour les adultes, avec l'outil de l'autodéfense féministe. Et avec ces animes-là, ben, des fois, on ne va pas être forcément toujours outillé, capable de monter un groupe entre pairs. Du coup, on peut faire appel à d'autres animes qui sont plus loin. Et là, notamment, on va pouvoir proposer en septembre prochain un stage spécifique pour les personnes trans parce qu'il y a une camarade qui va pouvoir se déplacer pour intervenir depuis Bruxelles. Et voilà, ça, on est vraiment ravis parce que ça fait vraiment plusieurs années qu'on avait envie de le reproposer. Et aussi, avec Marion, on a décidé de se mettre en binôme pour proposer en mai une anime spécifique pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans l'acronyme LGBTQIA+. Donc, ça ne se superpose pas à notre mixité choisie initiale. C'est vraiment, là, c'est ouvert à toutes les personnes qui se reconnaissent simplement dans la communauté LGBTQIA+. Quoi.
Oui. Parce que du coup, ah oui, c'est ça, là, quand vous appelez à d'autres personnes formatrices, c'est bien parce que vous êtes en réseau avec les autres. Parce que Grand Crash, si j'ai bien compris, c'est donc un réseau. Et
Ancrage participe à un réseau.
Participe à un réseau.
Mais c'est une association avec des actions et des activités propres. Ouais. Mais en fait, on a beaucoup d'assos qui travaillent avec soit les mêmes outils, soit les mêmes méthodes. À pas mal d'endroits en France, entre 10 et... Ouais, autour d'une dizaine d'assos.
Ouais.
Et du coup, ben, selon proximité de structuration ou de... Enfin voilà, d'interconnaissance, ben, on va nourrir du lien et se contacter régulièrement ou ponctuellement dans l'année. Mais oui, le réseau est important parce qu'en fait, bah, la prévention primaire avec les outils de l'autodéfense féministe et du programme CAP, bah, c'est un développement qu'on peut qualifier de récent parce qu'en fait, il se rapproche des institutions pour obtenir des subventions. Enfin, je parle du mouvement de l'autodéfense féministe en France. Il se rapproche des institutions qu'à partir des... grossièrement autour de 2017. Donc, c'est une nouveauté. Ça veut dire que... Il y a un peu un changement de paradigme à vouloir démocratiser cette pratique et ces outils d'empouvoirment vers des publics plus diversifiés. Et aussi de faire le lien avec les institutions. C'est un mouvement que précédemment dans le mouvement, il y avait plein de gens qui ne souhaitaient pas forcément le faire. Donc c'est un peu une nouvelle écologie et c'est important qu'il n'y ait pas de concurrence et qu'il y ait beaucoup de réseaux pour renforcer ce qu'on essaye de développer. Pour éviter que, justement, on soit trop isolé.
Et parce que quand on parle d'institution, on parle de quel genre d'institution ?
Ça va être simplement de faire de la demande de subvention auprès de la ville, auprès de la région, auprès de l'État.
Oui, d'accord.
Ça, c'est des mouvements avant qui n'avaient pas lieu. Les personnes avaient envie, effectivement, comme disait Noé, ça venait des mouvements autonomes, donc ça défendait aussi une certaine liberté... sans avoir de lien matériel à l'État pour rester affranchi de... Enfin, voilà, rester affranchi et rester plus autonome. Enfin, voilà. Et du coup, là, il y a eu un mouvement un peu général de pas mal d'assos qui ont fait le mouvement d'aller vers les institutions pour demander de l'argent, mais c'est récent, quoi.
Et c'est parce que vous vous en sortiez pas financièrement ? Enfin, comment le changement d'orientation politique il se fait ?
Je pense que c'était une envie de surtout responsabiliser plus l'État sur la prise en charge des violences. En fait, globalement, beaucoup de militantes ont fait un travail incroyable pour mener tous ces projets jusque pendant toutes ces années dans les milieux autonomes, mais que c'est coûteux et que ça a des conséquences sur les individus et sur les collectifs de porter cette charge-là et que ce serait un peu une manière de rappeler à l'État... réagissez et puis accompagnez-nous sur cette prise en charge-là.
Puis c'est vraiment du travail d'animer des formations d'autodéfense. L'idée, c'est aussi de bien pouvoir rémunérer les animatrices, pouvoir donner des conditions de travail qui soient bien pour elles, mais aussi que nos stages soient accessibles à tous. Et l'idée, c'est qu'à terme, ça puisse être gratuit aussi. En fait, les violences, elles ont un coût réel. Sur la vie des personnes qui les subissent. Et du coup, c'est aussi une double peine que de devoir payer pour s'en défendre. Du coup, nous, c'est pour ça que notre positionnement, c'est que l'État a une responsabilité dans la prévention primaire des violences.
Oui, que du coup, c'est une manière d'aller demander cette place et cette reconnaissance. Et puis, en fait, c'est des méthodes qui ont été... très très enrichi. Du coup, il y a une connaissance et des savoir-faire qui se sont nourris sur des dizaines d'années et pas que, même bien avant ça. Enfin, c'est des savoirs qui se perpétuent et qui s'enrichissent, qui méritent d'être un peu reconnus et professionnalisés. En tout cas, ça a été l'intention des militantes qui ont amené le salariat dans ces assos.
Et ça a été facile ou enfin justement, est-ce que les institutions en face et ou les trucs plus professionnalisants ou enfin que ça soit l'État ou quoi, ils répondent bien sûr, ça nous intéresse et on vous soutient ou
un peu. mais c'est vrai que bah, la situation des associations féministes en ce moment, elle est complexe. En fait, tout le monde subit des baisses de subventions. Mm-hmm. C'est vraiment généralisé. Il y a la Fondation des femmes qui a fait une enquête l'année dernière et qui était très révélatrice sur ce sujet. Les assos sont de plus en plus précaires. Et en fait, bah, bon, voilà, aujourd'hui, on est deux salariés, nous, dans l'association à Ancrage. Mais en fait, on peut pas, on n'est pas en capacité de répondre à toutes les demandes d'intervention. Mmh. Et du coup, on aurait besoin de grossir les effectifs, donc de moyens financiers plus importants. Et voilà, l'impact des violences demande à ce qu'on soit beaucoup plus nombreux, nombreuses pour y répondre. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on rame quand même. Et on va ramer de plus en plus avec... ces baisses de subventions, il faut trouver des moyens de diversifier nos financements, c'est complexe. Donc je ne sais pas si je peux répondre, oui ça a marché, enfin voilà, on est deux salariés à temps partiel et ensuite on rémunère des personnes extérieures, mais c'est aussi des situations précaires pour ces personnes, c'est-à-dire que l'asso elle-même elle est précaire, les personnes qu'on fait intervenir sont dans des situations économiques précaires aussi.
Et puis c'est vrai que là c'est un... La stratégie de l'État jusqu'à maintenant, c'était plutôt de faire de la prévention secondaire, donc plutôt de la répression et de la prévention tertiaire, mais de manière assez bâclée, c'est-à-dire tout ce qui concerne le parcours de soins des victimes et l'accompagnement, on pourrait nommer parfois la réparation, etc. Mais le fait est que la prévention primaire, ce qui correspond plus à, je dirais, l'éducation des plus jeunes, à changer vraiment les mœurs, à faire un mouvement un peu différent. Et nous, on ne se met pas à l'endroit exactement de l'éducation. En tout cas, pour ce qui est de l'autodéfense féministe, c'est plutôt de l'autonomisation de personnes opprimées dans un système qui est oppressif et qui a plutôt tendance à le rester. Bah, du coup, c'est un mouvement qui est nouveau si on veut que l'État soit concerné par ce type de prévention-là. C'est un peu comme un angle mort pour l'instant du travail de l'État, de vraiment... Enfin, Evars, on le voit avec le planning familial qui a eu des difficultés encore une fois. Enfin, ça fait longtemps que les personnes du planning ont des difficultés à parfois... légitimer les interventions Evars, bien que ce soit des pratiques qui datent d'il y a longtemps. Donc, enfin, Evars, c'est vrai que c'est bien si j'éclaircis ce que c'est, mais du coup, éducation à la vie affective, relationnelle, qui est proposée dans les... Pardon.
Et sexuelle, pardon.
Et du coup, ben, c'est des interventions en milieu élémentaire aussi. Comme le programme CAP, cette année, il y a eu au niveau national des freins à rentrer dans les écoles pour ces différentes formes d'intervention, vu que normalement, c'était conféré à... Enfin, donner aux instits de porter ça en interne dans leurs écoles. Et du coup, c'est vrai que c'est malheureux parce que toutes nos structures qui sont expertes sur les sujets d'éducation à la vie, au consentement, à l'éducation autour des limites, des violences, de tout ce qui fait que les enfants sont au fait de ce contre quoi, ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie et prévenir des risques, etc., et des violences. Si c'est l'autonomie des instits de s'en prémunir, c'est pas adapté. Donc voilà, nous, notre intention, c'est de réussir à aussi convaincre au niveau du territoire la nécessité de prévention primaire.
Oui, il y a un gros enjeu de plaidoyer autour de la question de la prévention primaire et notamment qui concerne les violences faites aux enfants, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est la CIVIS qui a fait un rapport en 2023. Et qui nommait qu'il y a en France chaque année 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et bon, voilà quoi, sachant que ça arrive à peu près dans les mêmes années où il y a des freins qui sont mis aux associations qui font du travail de prévention dans les écoles, c'est complexe. Donc, un des enjeux majeurs des assos d'autodéfense féministe et de prévention, c'est le plaidoyer, c'est de déjà convaincre de la nécessité de ce qu'on fait.
Bah, puis là, à vous écouter, j'ai l'impression que ça va avec... qu'effectivement, qu'il n'y a pas une reconnaissance de... Enfin, qu'il y a même un déni de... Enfin, et volontaire, hein, sans doute, qu'effectivement, c'est des problèmes structurels et qu'il faut les prendre en amont. Enfin, et là, on voit qu'il y a un blocage qui persiste, quoi. J'avais pas regardé l'heure de notre début, mais vous voulez faire une petite pause musicale ou comment on est ?
Volontiers.
Allez. Eh bien, on va écouter le premier morceau choisi par nos invités. Elle nous en parle après. A tale as old as time, a story just like mine. You've been hurt by those who are supposed to treat you right. But love is all desire.
Et du coup, c'était Marina, de son dernier album, le morceau Princess of Power. Et on l'a choisi avec nous parce que bah, le texte est vraiment empouvoirant. Elle parle du fait que bah, jusqu'à maintenant, elle avait vu que elle avait confondu l'amour avec le contrôle et qu'aujourd'hui, elle décide de s'en affranchir et elle part dans son vaisseau spatial pour devenir Princess of Power, enfin la princesse du pouvoir.
Ouais,
c'est trop puissant. Quoi. Voilà. Et le reste de son album aussi est vraiment trop shiny, girly comme ça et plein d'empouvoirment.
Ah, merci pour la découverte, c'est super. Et donc, on est toujours dans l'émission Dégenrée avec Jordan Henault de l'association Ancrage. Du coup, on a commencé à parler un peu de c'était quoi Ancrage, c'était quoi l'émission, etc. Et là, on s'est dit pendant la musique qu'on pouvait revenir plus précisément sur ce que c'était l'autodéfense féministe.
Bah, l'autodéfense féministe, c'est avant tout proposer des outils d'autodéfense verbale, émotionnelle, mentale et physique. Et c'est vrai que souvent, on nous attend beaucoup sur le physique, alors qu'il intervient, je dirais, plutôt comme un socle pour toutes les autres formes d'autodéfense, pour renforcer la capacité d'affirmation de soi, d'estime, de capacité à pouvoir faire de la riposte verbale plus confortablement. Parce qu'en fait, en effet, la force physique, on la sous-estime beaucoup. Mais l'idée, avant tout, avec l'autodéfense féministe, c'est de plutôt s'éviter d'avoir à rencontrer des situations de violence au point d'en avoir à rentrer dans l'autodéfense physique.
L'intention... la surestime, du coup, tu veux dire ?
On la surestime. En tout cas, peut-être je refais ma phrase parce que je me suis perdue aussi avec toi. L'idée, c'est souvent, on peut avoir tendance à imaginer que l'autodéfense physique, c'est un élément vraiment très important et indispensable et central, alors qu'en fait, c'est surtout celui qui va nous permettre de se dire, ok, j'arrive à frapper, j'ai de la puissance physique. Ok, en fait, déjà, je peux me défendre physiquement, mais l'objectif, c'est pas d'en arriver là. Parce que l'idée, c'est avant tout d'éviter de rencontrer des situations d'agression, de pouvoir s'en extraire le plus rapidement possible et ne pas avoir besoin de se défendre physiquement. Parce qu'en général, c'est que c'est un stade de danger quand même très, très fort si on doit avoir une riposte physique. Et l'idée, c'est de développer des outils, des compétences, des ressentis et refaire confiance à des choses qu'on a faites et refaites déjà pour en arriver là et pour être adulte et être encore présente. C'est renforcer aussi beaucoup toutes les choses du coup qu'on a déjà réalisées jusqu'ici. Et entrevoir une vie où on arrive à être plus en capacité de se mettre au centre. L'idée, c'est de partager des ateliers qui peuvent être soit sur un week-end complet, donc 2 jours. L'idée, c'est on se réunit dans un groupe entre pairs, entre 8 et 14 participantes. On va vraiment passer à travers toute une série d'ateliers qui peuvent être de la réflexion en sous-groupe, de la réflexion collective à l'échelle du groupe complet, des ateliers de laboratoire de jeux de rôle, d'expérimentation dans l'espace, des choses plus dans le corps. Enfin, ça va être beaucoup des choses qui peuvent des fois employer des outils d'ateliers de théâtre forum ou des ateliers de pose de limites. Et puis, de temps en temps, on va aussi... nous, les animes, la plupart du temps, on facilite la discussion et la co-construction du groupe. Mais il y a aussi des moments où on vient faire de l'apport de connaissances sur la typologie des violences, sur l'intersectionnalité autour des discriminations, sur les connaissances parfois juridiques, si surtout il y a des demandes dans le groupe. Et puis parfois aussi s'il y a de la demande sur le psychotrauma. Enfin voilà, différentes choses peuvent être apportées au cours de ces ateliers. Et on propose du coup ce qu'on appelle le stage de base, qui va se dérouler du coup sur 2 jours. Et sur ces 2 jours là, on peut les proposer des fois dans des formats un samedi, un dimanche ou 2 samedis d'affilée. Et quand on propose ces stages, donc nous on en propose en tant qu'asso, on en propose directement vers le public une fois par mois. Et on les propose à prix choisi. Parce qu'on va donner pas mal d'indicateurs de comment reconnaître ses ressources et sa position située sur ses ressources pour pouvoir participer. À terme, nous, ce qu'on rêverait de faire, c'est procurer tous ces stages de manière gratuite. Mais en attendant, c'est un endroit où on a besoin des participantes pour tenir ça. Mais on essaye que le prix choisi permette à toutes les personnes qui ont besoin vraiment d'accéder à cet outil de pouvoir y aller et de...
Oui, que ça ne soit pas un frein.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, nous, on intervient aussi pour... là, c'est un peu la partie hors de l'eau de l'iceberg. C'est-à-dire que le pôle autodéfense, il est aussi il fait qu'on intervient dans plein de contextes différents. On intervient auprès de plein de structures médico-sociales sur le bassin, auprès de... d'assaut, d'accompagnement de personnes qui sont proches de, par exemple, le local des femmes SDF, l'amicale du Nid, le village de santé à Échirolles, enfin vraiment pas mal. Et puis même des fois le CCAS, on peut former des personnes, des publics, des assos qui peuvent être dans des situations de discrimination croisée assez importantes, ou des personnes qui sont orientées par des travailleuses sociales, enfin dans différents contextes. Mmh. On essaye de trouver de la cohérence à intervenir et que ça parle aux personnes qui sont réunies. Et qu'elles soient, que ce soit toujours des ateliers où les personnes choisissent d'être là et ont envie et sont volontaires. Et après, on intervient aussi auprès des professionnels pour faire des formations qui questionnent un peu les postures dans d'accueil et aussi qui peuvent permettre d'outiller des femmes dans le cadre de leur travail pour trouver des positions de... des fois pour lutter contre les discriminations envers elles, mais aussi des fois envers le public qu'elles accompagnent pour trouver des postures d'accueil qui soient adaptées. Et aussi des fois faire de la désescalade dans le milieu professionnel parce que le travail social fait qu'on est face à des personnes qui sont oppressées opprimées de plein de manières et que ça peut les conduire à faire des agressions de frustration sur des personnes qui sont disponibles parmi les travailleurs sociaux. Du coup, c'est aussi accompagner les gens qui travaillent dans le social et qui peuvent avoir envie de réfléchir à leur manière de réagir à ces contextes.
Et du coup, c'est vous qui sollicitez ces milieux professionnels et ces structures ou c'est elles-mêmes qui
disent leurs besoins ? C'est les deux, je dirais.
Ah ouais.
Ouais. Non, par contre, on va voir pour répondre à des endroits de pratique et des problématiques rencontrées sur le terrain et voir quels sont leurs besoins. Mais globalement, on s'adapte, c'est sûr, c'est nécessaire.
Pour ajouter quelque chose sur les... stage de base et en général les cycles de formation, c'est vrai qu'un des enjeux principaux de l'autodéfense féministe, c'est aussi de se sentir capable, en capacité de se défendre et légitime. C'est quelque chose qui revient beaucoup chez les personnes qui participent à ces stages, c'est la question de la légitimité en fait, de j'ai le droit de me défendre face à une situation de violence. Et ça, c'est quelque chose que les animatrices travaillent beaucoup avec les publics.
Et là, entre effectivement que ça soit en termes, quand vous dites capacité, puissance physique et tout, est-ce que il y a aussi une réflexion et une mise en pratique et laquelle avec des corps moins valides, avec des personnes malades ? Enfin, je sais pas comment ces personnes-là sont aussi concernées.
Oui, on essaye de faire un accueil qui est à la fois lucide sur le fait qu'il y a des angles morts qu'on a, si on est des animes valides ou peut-être pas forcément toujours que valides, mais parfois pas concernées exactement par les mêmes problématiques. Et du coup, ce qu'on encourage beaucoup aussi, c'est on propose des outils et on réfléchit avec des personnes qui sont à des endroits spécifiques à toi-même, t'es un endroit aussi de connaissance très forte de ton vécu, de ce que tu peux faire, de ce que t'es en capacité de faire. Donc, on peut adapter, voir comment on arrive à adapter. Mm-hmm. Et parfois, on atteint peut-être nos limites, mais c'est le début d'un chantier. Et des fois, la personne, au moins, elle a eu l'occasion de se consacrer à penser à ça pendant un week-end avec nous. Et même si on repart pas forcément qu'avec des réponses toutes faites et absolues, on met en route l'idée que je peux répondre, me défendre, des fois utiliser des prolongements de son corps. Enfin, il y a les objets qui nous entourent aussi, qui peuvent créer des extensions. La réponse verbale aussi, c'est quelque chose de renforçant et de très efficace. Et puis après, il y a aussi des ateliers spécifiques selon les questions qui concernent les groupes qui sont réunis. Mais il y a notamment certaines assos qui bossent beaucoup sur des questions handi de type les personnes les personnes sourdes, du coup, qui peuvent faire de la LSF pendant tout un week-end. Et du coup, il y a des gens qui sont formés à procurer des stages de ce type du côté de l'ARCAF à Marseille. Après, il y a aussi du côté de l'asso de l'Orlaï vers Toulouse, mais qui bouge dans toute la France. Il y a beaucoup de stages spécifiques pour des personnes handi qui ont aussi la relation à l'aide soignant à réfléchir.
Ouais. Tout à fait.
Voilà.
Et alors, là, dans mes petits papiers, c'est quoi la différence avec la self-defense ?
Ah oui.
Eh bien,
ouais, comme tu veux.
C'est la self-defense, c'est quand même, enfin, c'est un art martial du coup. C'est physique. C'est comment se défendre physiquement dans un espace public ou non. Mais du coup, l'autodéfense féministe, c'est ce que tu disais, Jordan. ça va vraiment englober tout ce qui est autour du physique, donc aussi mental, verbal, émotionnel. Et c'est tous ces outils-là pour voilà, sortir de la sidération. Enfin, tu veux compléter, mais c'est... En fait, c'est pas totalement en opposition non plus. On a des éléments, du coup, d'autodéfense physique qui peuvent aussi venir de la self-defense, mais c'est vraiment pas que ça.
Bah, la self-defense, c'est beaucoup issu aussi de... Pour ce que j'en connais, en tout cas, des milieux paramilitaires. Et du coup, ça fait appel à des techniques... qui sont certainement très pertinentes parce que ça permet vraiment de développer plein de connaissances, de clés, de frappes, tout un tas d'outils qui sont intéressants. Mais parfois, on a eu des échos que c'était pas forcément toujours avec une lecture féministe ou en tout cas de vision systémique des violences. Mm-hmm. Et du coup, on a quelques adresses qu'on recommande à nos participantes pour quand elles ont envie. Bah voilà, parce que en fait, ça peut être aussi cathartique et sécurisant de pratiquer de la self-defense. Mm-hmm. On trouve que c'est complémentaire, mais on trouve aussi important de se dire « Est-ce que dans cet espace, les gens réfléchissent à cette question-là » Mm-hmm. Ça nous paraît important que ce soit à minima pris en compte. Je dirais que c'est large, mais ça peut être complémentaire. Il faut juste vérifier les équipes dans les clubs, ce qu'elles proposent. Et nous, c'est sûr que ça fait depuis toujours que c'est des ateliers qui sont prévus et pensés dans un prisme d'analyse féministe. Du coup, c'est ça qui nous détache beaucoup. Mmh. Notre généalogie, notre historique n'est pas le même, quoi.
Je ne sais pas si c'est un mauvais mot, mais particularité du pôle CAP, alors ? Dans tout ça.
Le pôle CAP, du coup, alors le programme CAP, il vient des États-Unis. Le programme CAP. Ouais. Enfin, nous, il y a deux pôles dans l'asso, mais du coup, c'est un programme qu'on n'a pas inventé, qui existe depuis longtemps, qui a émergé aux États-Unis dans les années 70. C'est un programme qui est très scripté. Et il est arrivé en France dans les années 2010. Il est d'abord passé par la Belgique, par l'association Garance, du coup, qui est un pôle à la fois aussi autodéfense et CAP. Et du coup, c'est à destination des écoles élémentaires. Donc, c'est ce que tu disais en début d'émission. C'est un programme qui a un atelier, qui est constitué de trois ateliers. Un à destination des enfants, d'école primaire, qui permet aux enfants de connaître leurs droits. De savoir identifier des violences et pouvoir identifier des personnes adultes de confiance à qui se confier si elles subissent des violences. Et aussi de pouvoir continuer à parler si leur parole n'est pas entendue. Donc cet atelier de 1h30 consiste principalement à ça. Dedans, à l'intérieur, le contenu, ça va être les animatrices qui vont jouer des petites scénettes. Et les enfants interagissent avec elles, du coup, sur ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est leur donner des outils au travers de ça. Ensuite, en accompagnement, à côté de cet atelier, il y a deux ateliers pour adultes. Un pour les adultes, le personnel de l'établissement scolaire qui côtoie les enfants. Et principalement, cet atelier, il permet aux adultes aussi de pouvoir incarner ces postures d'adultes de confiance et d'avoir des outils sur comment réagir quand ils reçoivent des récits de violence, parce que ça arrive régulièrement que les adultes reçoivent des récits de la part des enfants et ne savent pas quoi en faire. Donc l'idée, c'est de les outiller dessus et de ne pas les laisser elles au démunis ni les enfants sans réponse après avoir déposé un récit de violence. Et un troisième atelier à destination des adultes en dehors de l'établissement scolaire qui entourent l'enfant, et c'est des adultes volontaires. Et donc ça peut être les parents, des amis de la famille, des personnes travailleuses des MJC, de toutes les activités extrascolaires des enfants. Enfin voilà, c'est vraiment qui est volontaire et veut aussi travailler sur ses postures d'adultes de confiance et de savoir accueillir un récit de violence. Ça, c'est pour les écoles primaires. Et en maternelle, du coup, il y a aussi un dispositif qui est un spectacle d'une demi-heure pour traiter globalement un peu des mêmes choses, donc connaître ses droits, identifier des violences. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ça.
Pour la synthèse, ça permet... Enfin, ce que nous, on vient défendre avec ce type de dispositif pour les écoles primaires, c'est vraiment de créer une culture commune autour de la prévention. Vu qu'il y a une culture du secret beaucoup autour des violences faites aux enfants, nous, ça va être vraiment de proposer une lecture partagée de toutes les personnes qui peuvent intervenir et prévenir de ces violences.
Et du coup, quand vous dites outiller, c'est toujours avec les multi-arcs que vous avez déjà développés, quoi. Autant des références, des types de comportements, d'écoute, de réaction ?
Ah, là, ça ne va pas être de l'autodéfense féministe. Ouais. Ça va être vraiment plus sur ce que décrivait Nau, sur connaître les droits, reconnaître un adulte de confiance à travers des critères qu'on définit avec les enfants et qu'on va aussi définir avec les adultes. Mmh. Ça va être le fait, effectivement, de... À travers les scénettes qui vont être présentées, définir qu'est-ce que c'est une agression. Il va y avoir une scénette entre enfants et une scénette avec une agression d'un adulte sur un enfant. Et du coup, ça va être de pouvoir nommer les choses, de pouvoir décrypter et de pouvoir trouver des occasions de créer des fins résolutives à ces scènes qui leur proposent des sorties, des issues de sortie à ces situations de violence.
Okay. C'est les adultes qui jouent, enfin, c'est qui jouent des enfants, mais du coup, c'est pas.
Oui, là, c'est pas du théâtre forum.
Oui, voilà, c'est les enfants observent, réagissent, interagissent.
Et pour les adultes, ça va être leur proposer toutes les ressources locales pour. Elles ont le récit de violence qui leur est parvenu, ou si un enfant s'est confié, ou si elle relève certains comportements de l'enfant qu'elles comprennent pas et qui peuvent être un indicateur, de savoir quoi en faire, vers quelle structure se tourner, que ce soit pour les structures scolaires ou que ce soit pour les personnes autour. C'est ça, au niveau des outils, ça va être beaucoup ça pour les adultes.
Super, merci pour la clarification. Vous voulez encore ajouter quelque chose sur le programme CAP pour enfants ? Moi, ça me paraît clair.
Non,
si c'est clair.
On peut peut-être ajouter qu'en ce moment, on est aussi dans des propositions de formation spécifiquement pour les adultes. Mm-hmm. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était très rattaché au dispositif complet qui allait dans les écoles et qu'à partir de maintenant, on est plutôt à proposer aussi à tout. Enfin, on a eu beaucoup de demandes en fait de la part des MJC, MDH. Enfin, acteurs autres que l'éducation nationale, de vouloir avoir des formations de ce type. Donc aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des moments où on peut intervenir simplement pour ces structures-là. Voilà.
Mais c'est vrai que pour revenir sur les questions de besoins humains dans l'asso, des budgets, on aurait vraiment besoin aussi d'une personne qui coordonne ce pôle. On a besoin d'effectifs, en fait. On a besoin... C'est un énorme travail que de coordonner ce pôle, de chercher des financements pour. Et du coup, on aurait besoin d'un ou deux postes là-dessus, spécifiquement.
Du coup, vous recrutez ?
On aimerait bien, mais non, pour le moment, non. Mais on appelle les financeuses à nous financer pour créer ces postes, oui.
Eh bien, moi, je trouverais ce moment parfait pour une autre pause musicale. Qu'en pensez-vous ?
Ah oui,
c'est super.
Allez, on fait ça. Le deuxième morceau. We'll be right back. Et voilà, on est toujours avec Dégenré et les deux camarades de l'association Ancrage, association de prévention des violences sexistes et sexuelles, et donc toujours aussi sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et bon, on a beaucoup parlé, on arrive déjà presque à la fin de l'émission, mais on a encore tellement de choses à vous dire. Là, on va partir sur la vie associative. Du coup, qu'est-ce qu'on y fait d'autre? Qu'est-ce qu'on y propose d'autre à Ancrage?
Eh bien, en 2025, on est super contente parce qu'il y a pas mal de personnes militantes qui nous ont rejoints et qui ont constitué, on va dire, des groupes de travail sur des projets qu'elles voulaient mener. Et notamment, ben, il y a un fonds, on va dire, de documentation qui est en train de comme devenir une bibliothèque dans l'asso. Et du coup, des personnes se chargent un peu de gérer cette bibliothèque et la fanzinothèque qui est dedans. Et du coup, ça veut dire l'alimenter en allant imprimer, notamment au centre social du 38, en faisant une table de presse qui est de plus en plus enrichie pour que toutes les participantes des formations, elles puissent en profiter et puis poursuivre à travers tous ces contenus super riches. Et il y a aussi un autre groupe de travail qui a commencé à faire des arpentages. Et le tout premier arpentage, du coup, a eu lieu le 7 mars dernier. Et donc, c'était super émouvant pour un lancement. Et il y en aura certainement d'autres. Et peut-être en mai, je crois que ce sera le prochain arpentage sur le livre de Elsa Dorlin, Se défendre. Mmh. Mais voilà, à suivre. Ça sera bientôt sur les ondes de nos réseaux sociaux, Instagram, tout ça, tout ça.
Vous êtes sur les réseaux?
Ouais, on est sur les réseaux sociaux, grâce à, du coup, Pauline, une bénévole aussi de l'asso, qui s'occupe à les entretenir avec moi. Ensemble, on est un peu derrière les réseaux sociaux. Et après, il y a aussi un groupe qui est en train de bosser sur un podcast sur les violences dans le parcours pénal quand on fait appel à l'État, en fait, pour recourir au monde judiciaire suite à des violences vécues, des violences sexistes et sexuelles. Du coup, il y a un groupe en ce moment qui travaille là-dessus et qui a l'air d'avoir l'ambition de bientôt, d'ici quelques mois peut-être, diffuser le premier épisode du podcast. Est-ce qu'on a, aussi un groupe qui travaille à la création d'une brochure de synthèse des stages de base? Parce que c'est vrai que on donne quelques imprimés qui servent de mémo, mais c'est vrai que les week-ends de formation sont très riches et très denses, et parfois il peut y avoir le regret de pas avoir assez de matière à remporter chez soi. Donc voilà.
Et ouais, c'est bien, c'est des vraies ressources, quoi.
Ouais.
Toute l'année dernière, un bénévole, Tom, qui a donné un cycle d'ateliers d'écriture féministe, ce début d'année aussi. Donc sûrement ça a vocation à continuer. Et ouais, quoi d'autre
C'est déjà pas mal.
Oui, voilà.
C'est déjà...
et là, c'est vrai que notre CA, il s'est pas mal renforcé cette année, l'année 2025, et on était vraiment ravis de ça, parce que ça prend un peu du poids politique dans cet endroit-là de l'asso. Et voilà, on se sent assez entouré au niveau de... par les militantes locales. Et après, justement, là, la prochaine Assemblée Générale, vous êtes tous bienvenus à la date du 25 mars, qui sera donc un
mercredi. C'est ce mercredi, la mercredi prochain.
Et du coup, ce sera à 18h à la Maison de la Vie des Assos.
Ok, donc même si on n'a jamais mis un pied dans un stage, même si c'est la première fois qu'on entendait parler d'Ancrage en nous écoutant ce jeudi 19, on peut venir au CA, quoi.
À l'Assemblée Générale, complètement. Il suffit d'adhérer en arrivant. Okay. Et comme ça permet aussi de comprendre nos activités. On refait une présentation de ce qu'on fait, on présente le rapport d'activité. On essaye de faire tout ça de manière très fun, parce qu'on est très drôle aussi. Venez, n'hésitez pas, pour nous rencontrer aussi en vrai, échanger. C'est super chouette de rencontrer les personnes qui s'intéressent à l'asso, à nos actions.
Et si on vient, c'est qu'on a envie de rejoindre ou de participer, c'est possible ou...
Oui,
ouais.
C'est le meilleur moment pour ça, parce qu'on va s'atteler à devoir être clair et présenter les choses, et y compris tous les groupes de travail bénévoles seront présents aussi, si vous avez envie envie de les rejoindre, vous serez vraiment les bienvenus. Et oui, le dernier groupe dont j'ai pas parlé, du coup, c'est le groupe de travail sur la communication de l'asso. Donc, c'est communiquer sur les choses et sur les formations professionnelles, mais aussi sur tout le pan des activités bénévoles de l'asso qui peuvent faire des événements, quoi. Voilà.
Et globalement, bienvenue à vous si vous avez aussi des envies qui résonnent avec nos activités. Si vous voulez proposer des choses, c'est vraiment bienvenu. Tout ce qu'on a présenté là, c'est aussi beaucoup l'initiative des bénévoles en fait, qui sont arrivés avec leurs projets, leurs envies. Et du coup, c'est super chouette que ça vienne aussi de l'extérieur.
Du coup, il manque que les sous, quoi.
Il manque que les sous. Donc globalement, il manque que les sous parce que sinon, il y a tout le reste. Il y a l'enthousiasme, l'expertise, les personnes, il y a tout. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez évidemment faire un don en allant sur notre site internet. Il y a un lien pour les dons sur Hello Asso. C'est assez simple, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Et ça, c'est super pour notre stabilité économique et pouvoir avoir une vision sur le long terme. Si vous êtes mécène, évidemment, contactez-nous. Hein. que vous soyez aussi une petite entreprise, des petits commerçants. Tout type de soutien nous est bénéfique. Donc vous pouvez aussi parler de nous à votre entourage, nous faire intervenir si vous êtes dans une structure où ça peut faire sens. Vraiment, il y a plein de manières différentes de nous soutenir. Vous pouvez adhérer, c'est à prix libre. Donc même si vous n'avez pas de sous à mettre pour l'adhésion, en fait, c'est important pour nous d'avoir le plus de personnes qui adhèrent possible. Mm-hmm. Ça donne du poids à nos actions. Quand on fait des demandes de financement aussi, c'est important de montrer qu'on a un projet qui est soutenu, qui fait sens pour beaucoup de monde. Donc, donc déjà, si vous adhérez, c'est déjà beaucoup.
Je crois qu'on arrive vraiment à la fin de bientôt la fin de l'émission. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de rajouter ou qu'on aurait oublié? Ça paraît bien.
Ouais, on est pas mal là. Ouais. Tu penses à un truc, non?
Non, je pense. Suivez-nous. On va continuer à faire plein de choses différentes. Continuer à faire des événements. Voilà. Il y a plein de choses aussi dont on n'a pas pu parler là, mais qui sont au travail. Et du coup, si vous voulez suivre nos actions dans le futur, n'hésitez pas et puis à venir nous rencontrer aussi.
C'est très sympa. Et on peut que redire que déjà que c'est hyper important, enfin de tout temps, mais que moi je trouve que vu l'environnement social et politique actuel, disons-le clairement, qui est une voie fasciste, je pense que vos formations, vos savoirs et votre pratique ne peuvent que nous aider, puisqu'entre les réactionnaires masculinistes, effectivement, les femmes vont être en première ligne, les personnes racisées vont être en première ligne, les personnes queer vont être en première ligne. Bref, va falloir qu'on se défende et qu'on lutte, donc on a besoin de vous. Et en tout cas, je crois qu'on a zappé de dire que le deuxième morceau qu'on a écouté, c'était...
À Bronski Beats, et c'était le titre, je me souviens plus.
Small Town Boy.
Ah oui, ouais, c'est ça. Et c'est un titre, je sais plus de quand il date, des années 90, peut-être.
Au moins, ouais.
Mais du coup, ça parle de qu'est-ce que c'est que d'être, gay ou queer, et que d'avoir à quitter son chez-soi parce que notre famille ne nous accepte pas dans notre queerness et que voilà.
Et du coup, on va lancer le troisième et dernier morceau de musique. Mmh. Et on se dit au revoir avant. Parce que j'imagine
merci
que là, c'est...
merci pour l'accueil, franchement. C'est merci. De nous avoir accueillis.
C'était un grand plaisir. Merci de nous avoir sollicités. Soutenez Ancrage, c'est super. Et le troisième morceau, c'est...
100% Féminista de Carole Conca.
À bientôt, prenez soin de vous.
À bientôt.
Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento a Coutune. Represento Carolina. Chica da Silva, sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. Às vezes frágil eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força. Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100%